Des zèbres dans l'église. Un podcast à haut potentiel.
Les neuroatypiques sont-ils tous différents, tous identiques? Aujourd'hui, pour en parler, Régis. Bonjour Régis.
Salut David et bonjour à tout le monde.
Alors, les neuroatypiques, c'est un peu comme dans l'agriculture. Il y a ceux qui sont adeptes de monoculture, qui voudraient mettre tout le monde dans des cases, toutes les mêmes cases pour tout le monde. Puis, il y a ceux qui sont plus adeptes de la polyculture élevage. Alors, on multiplie les cases. À certains, il manque des cases, d'autres en auraient trop. T'en penses quoi de tout ça, Régis?
Ah, je suis frappé par la difficulté. En fait, la question des HPI étant devenue une mode dans notre société, on retrouve cette mentalité dominante de la pensée unique et puis de vouloir catégoriser tout le monde et du coup d'essayer de voir un petit peu tout le monde à travers certaines lentilles déformantes parce qu'on veut à tout prix que chacun corresponde à telle ou telle chose. Et je le vois dans les personnes que j'accompagne, je le vois dans les différents réseaux dans lesquels je peux intervenir. Par exemple, je participe à quelque chose qui s'appelle Suivez le zèbre, une personne dans les sciences humaines qui a découvert sa douance et puis qui a souhaité, du coup, dans les réseaux des HPI, trouver des informations, trouver de la matière pour ses études de psychosociologie. Et puis, il y a quelques 2 mois, je crois, environ, elle a envoyé un message en disant, je suis sincèrement désolé, au fil de mon propre cheminement, je découvre que j'ai un TDAH, alors trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Je pense que pour elle, c'est avec hyperactivité. Et elle dit, je vous ai dit un tas de choses à propos de la douance. Mais une partie des choses que je vous ai dites sont fausses parce qu'en réalité, il s'agissait de mon TDAH et pas de mon côté HPI. Ça m'a rendu attentif d'autant plus que j'accompagne quelques personnes et que dans mon propre cheminement, je vois aussi ce genre de choses. Et un psychiatre dont j'ai perdu le nom, mais certains peuvent le retrouver éventuellement, il est interviewé dans une carte blanche de Fabrice Michaud sur YouTube. C'est un psychiatre de Grenoble qui s'occupe spécialement des TSA, c'est-à-dire des troubles du spectre de l'autisme, puisqu'on parle plus de l'autisme tout court, mais en fait, il y a tout un spectre, il y a toute une diversité d'autisme, et il y a des cas limites sur lesquels il est difficile de poser un diagnostic. Et on s'aperçoit que les cas limites les plus difficiles sont précisément ceux des personnes qui sont intellectuellement précoces dans la petite enfance et qui, quelles que soient leurs différences, apprennent à compenser. J'ai entendu plusieurs très hauts potentiels intellectuels découvrir tardivement qu'ils avaient un certain nombre d'autres spécificités, mais ce psychiatre-là intervenait, lui, sur les appellations, alors TDA, trouble du déficit de l'attention, TSA, trouble du spectre de l'autisme, et lui disait, mais ce sont pas des troubles, c'est de la biodiversité, c'est de la différence. Alors nous ne sommes peut-être pas nombreux à être concernés par telle ou telle différence. Pour le haut potentiel intellectuel, la même chose, on parle de 2,7% de la population. Sur toutes ces diversités, on n'est pas nécessairement nombreux, mais le plus important, c'est d'apprendre à vivre en vérité. Ma vie personnelle me fait découvrir des choses. Entre autres, mon hyperactivité, j'ai 60 ans et je découvre que ça fait 57 ans que je la cache à tout le monde. Et en plus, ça m'a mis en difficulté dans plein de domaines. D'abord parce que ça demande une énergie folle de vouloir contrer des pulsions qui montent plus profond de nous. Quand on a besoin de changer d'activité toutes les 10 minutes, quand on a besoin de mener de front plusieurs activités différentes, quand on a besoin que les choses avancent et qu'on a du mal à supporter que les autres traînent à côté, et qu'on essaye de l'étouffer en se combattant soi-même, on prend un temps fou d'énergie, de charge mentale, mais il y a encore une autre chose qui intervient et qui était vraiment nettement mon cas. c'est que ça fait monter l'anxiété très très haut, parce que se combattre soi-même, on n'est pas fait pour. L'apôtre Paul lui-même, quand il dit, alors c'est un texte qui pose des problèmes, et dans le regard d'aujourd'hui, c'est difficile, parce qu'il met une dissymétrie dans la relation entre hommes et femmes, mais il dit, l'homme doit prendre soin de sa femme, comme de sa propre chair, tout le monde prend soin de sa propre chair. Je fais une espèce de raisonnement par absurde et on se rend bien compte que certaines personnes, pour une raison ou une autre, ont appris à ne pas prendre soin d'elles-mêmes. Et dans des cas comme ça, si on ne prend pas soin de soi-même, on se fait du tort à soi-même, on fait du tort aux autres parce qu'on devient souvent un petit peu frustré, aigri, agressif, difficile dans les relations. Et le but du jeu, c'est de retrouver cette parole que j'aime beaucoup, cette parole du Seigneur Jésus. La vérité vous rendra libre. C'est être vrai, c'est être authentique, c'est regarder en face qui je suis, qui me libère une énergie folle. J'avais déjà beaucoup fait de travail sur moi-même dans le passé, depuis que j'avais découvert ma douance, mais j'ai vu mon niveau d'anxiété baisser. Et plus étonnant encore, je m'aperçois, je ne suis pas diagnostiqué, je ne suis pas psychiatre, je ne veux pas faire d'auto-diagnostic, mais vu tous les retours que j'ai de beaucoup de côtés, de personnes compétentes, il est vraisemblable que j'ai au minimum des traits autistiques. Et je me rends compte que de les accepter, de les accueillir, m'évite certaines choses. Alors, je voudrais dire, si certains parmi nos auditeurs arrivent, pour certaines circonstances, à faire des crises de panique, mais parfois simplement d'admettre qu'il y a des choses qui sont profondément angoissantes pour moi, parce que je suis comme ça, parce que je suis différent, parce que si je fais les courses au supermarché avec mon épouse et que je pose le caddie à un endroit et on part chacun de notre côté avec rendez-vous au caddie à cet endroit et que pour une raison ou pour une autre, elle a besoin, elle a des choses un peu lourdes, de prendre le caddie et de le mettre ailleurs, je sais que quand je vais arriver à cet endroit, si le caddie n'est pas là, je vais avoir un moment de mini panique, un moment d'anxiété. Si je l'accueille parce que je sais que c'est normal, si je ne m'en veux pas, mais que simplement je prends le temps de respirer, de gérer mon anxiété, de lever les yeux, voilà, paisiblement, je vais pouvoir m'apercevoir que tout simplement elle est au rayon à côté, qu'elle a dû prendre un pack de lait, c'est lourd, voilà, des choses comme ça.
En fait, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que en écoutant, en cherchant et en travaillant sur toi, tu n'es pas en train d'essayer de rajouter des pims à ta veste, mais tu essaies de trouver des grilles d'analyse qui vont te permettre de te comprendre.
C'est exactement ça. Ça sert à rien de vouloir se rajouter des choses sur soi. Ça sert à rien d'essayer de voir, de se dire, ah, mais je dois probablement aller mal dans tel ou tel domaine parce qu'il y en a d'autres que je connais et dans ces domaines, ils vont mal. Non. Simplement apprendre à regarder honnêtement qui je suis, comme le Seigneur m'a fait. Apprendre à vivre avec en disant, il y a des choses que je préférerais éviter. C'est très autistique avec cette tendance à l'anxiété. Si je pouvais l'éviter, oui, je serais très content. L'apôtre Paul aussi, il a demandé 3 fois au Seigneur d'être libéré de quelque chose. Personne ne sait exactement quoi. Lui, c'était suffisamment embêtant pour lui pour qu'il dise, c'est un ange du Satan pour me flageller. Et le Seigneur lui a répondu les 3 fois, ma grâce te suffit. Bon. Dans nos cas à nous, qui sommes un petit peu décalés par rapport à la société, je crois que la chose la plus importante, c'est de réaliser que notre société fonctionne sur une base de normalité. Cette normalité, c'est la majorité de la population est comme ça, dans un domaine. Mais personne n'est normal. Dans la société, tout le monde souffre d'un handicap ou d'une différence quelque part. Nous ne pouvons pas être dans la majorité, dans tous les domaines. Nous ne pouvons pas être dans la moyenne, dans tous les domaines. Avec la catégorie haut potentiel intellectuel, très haut potentiel intellectuel, il y a très souvent, pas toujours, des troubles qui peuvent être associés, ce qu'on appelle les troubles 10. Des personnes qui sont dysorthographiques, qui sont dyslexiques, qui sont dyspraxiques, et tant d'autres que je ne connais pas nécessairement, mais Nous n'avons pas à les chercher à la façon de certains hypocondriaques qui vont dire oh, oui, moi j'ai tout ça, tout ça, tout ça. Juste se regarder en vérité, dire bah, voilà, j'ai des domaines où je suis plus fort que les autres. J'ai des domaines où je suis un peu handicapé par rapport aux autres. Et je dois apprendre à vivre dans cette société avec mes différences. Les traits autistiques font que parfois on va s'emporter et que les autres ne peuvent pas, vont se sentir agressés, alors que nous, on s'est même parfois même pas senti énervé et on n'a pas eu l'impression du tout de mettre un coup dedans. Mais les autres ont été mordus. Si je peux apprendre à accepter le fait que, en voyant les réactions des autres, que je l'ai voulu ou non, que j'en ai été conscient ou non, j'ai fait quelque chose là que les gens autres que moi ne peuvent pas comprendre, j'ai besoin de revenir, de préciser, de vérifier, savoir simplement communiquer de façon basique. Et, ah, avoir ta réaction, je pense que j'ai dit quelque chose de travers, j'avais absolument pas l'intention de t'agresser, excuse-moi, mais il faut qu'on clarifie avant d'aller plus loin. Et on parle. Et pour ceux qui ont besoin, personnellement, j'ai besoin de clarifier ce besoin que sémantiquement, les choses soient exactes. Et du coup, j'ai besoin de poser les diagnostics. Je connais des personnes qui sont à haut potentiel intellectuel et qui n'ont jamais fait les tests. Elles le savent très bien. Pour elles, dans leur tête, c'est clair. Et puis elles me disent, mais à quoi bon aller dépenser 500-600 € pour faire trois séances de tests et puis savoir où j'en suis, alors je sais déjà. Voilà. Moi, j'ai eu besoin et j'aurais besoin de préciser les choses dans certains domaines. Chacun est différent, à chacun de savoir, mais l'important, c'est d'apprendre à se regarder en face et accepter cette biodiversité. Moi, je reviens là-dessus parce que j'aime ça. Les êtres vivants sont tous différents. Dans les récits de la Genèse, je trouve ça magnifique. Dans Genèse 1, l'être humain est bien mis à part, mais il est dans un ensemble cohérent avec tous les autres êtres vivants. Nous faisons partie du règne animal. Nous ne sommes pas en dehors de la création. Nous sommes dedans. Nous sommes des mammifères vivipares et vertébrés en plus. Et donc, avec ce qui nous lie de façon organique, de façon intime au reste du règne animal, nous pouvons voir la biodiversité dans les autres espèces et dire, eh ben, nous aussi, et accepter cette diversité. Et plus nous avons capacité de raisonnement, plus nous avons une haute tolérance à l'incertitude. Donc, nous pouvons aussi poser des hypothèses, y compris sur nous-mêmes, et dire, peut-être éventuellement que je suis comme ça. Et puis nous apercevoir plus tard que non, peut-être pas, que c'était juste une ressemblance, que c'était autre chose. Mais en avançant toute notre vie, apprendre à nous connaître toujours plus, à écouter ce qui monte du plus profond de nous-mêmes, en disant pas « Ouh là là, c'est mauvais », ou « ça fait peur, c'est pas raisonnable ». Mais non, c'est moi aussi, mon inconscient, c'est moi aussi. Je l'écoute et j'essaye de comprendre.
Mais justement, quand tu parles de s'écouter tout ça, j'ai eu récemment un ami qui m'a confié que il avait dû arrêter de voir sa psy parce qu'il s'était rendu compte que finalement, il était entré dans une phase où on s'occupait tellement de lui et de son moi et je parle de moi juste dans le fait moi, je, etc., qu'il s'était rendu compte que il en avait oublié sa famille, il avait oublié les gens qui étaient autour de lui, et il était tellement concentré sur lui qu'il en oubliait le reste. Est-ce que à chercher, à être centré sur apprendre à s'observer, etc., il n'y a pas aussi un petit risque, une petite pente qui pourrait être glissante où certains pourraient glisser?
Alors, la pente, elle existe dans notre société, elle est culturelle. Les sociologues comme les philosophes nous parlent de postmodernité. La modernité, c'est ce qui nous a amené cette importance de l'individu, et la postmodernité, ça nous amène à une dérive terrible, c'est de n'être centré que sur soi. Moi, tout ce que j'évoque, c'est toujours dans la relation avec moi-même, avec les autres et avec Dieu. Toujours en relation, la vie humaine, de mon point de vue, n'est faite que de relations. Ce sur quoi notre société insiste tout le temps, c'est pas de la vie, c'est de la survie. Avoir de quoi manger, de quoi boire, un toit, des vêtements, c'est tout ce qui me permet de survivre. Mais ma vie est faite de relations. Et si je fais un effort pour regarder à qui je suis en vérité, c'est pour mieux être en relation avec les autres. Et alors, tu as entièrement raison, ce n'est pas nécessairement le fait de cet ami, ce que tu viens de dire. C'est aussi le fait que dans certains courants de psychothérapie, on va être entièrement centré sur soi. Je le vois particulièrement dans tous les milieux qui utilisent la spiritualité non religieuse. Mais ce qui caractérise la spiritualité non religieuse, c'est que très souvent, elle nous propose un Dieu. Moi, moi-même, je deviens mon propre Dieu. Et en fin de compte, alors, mes relations avec les autres sont faussées, elles deviennent dissymétriques. Si je peux dire, je suis ni mieux ni moins bien que mon voisin, que mes parents, mes enfants, mes frères et sœurs, mon conjoint, mes cousins, cousines, tous ceux avec qui je suis en relation, les membres de mon église ou de mon entreprise. Si je peux dire simplement, je suis différent sur certains points, et c'est important que je me connaisse mieux pour apprendre à fonctionner avec eux, avec prudence, parce qu'on ne sait jamais si certains peuvent être mal intentionnés et éventuellement s'en servir contre moi, mais avec prudence, savoir dans certains cas dire. Écoute, il faut que je t'explique, je fonctionne comme ça. Et si tu peux prendre en compte cette dimension, quand tu réagis de telle façon, ça me fait très très mal. Il y a des moments où tout à fait involontairement, moi, je te fais mal. Il faut qu'on arrive à se parler plus parce que pour que notre relation soit meilleure, on est plus du centré sur soi, mais sur ce relationnel, Il est absolument fondamental. Le psychiatre dont je te parlais tout à l'heure disait qu'il a eu l'occasion de discuter avec un homme qui avait un Asperger classique, donc un autiste à haut potentiel intellectuel, dans ce cas-là même à très haut potentiel, qui était un ingénieur fabuleux, mais avec des grosses difficultés relationnelles et puis une incompréhension des émotions, tout ce qui relève de l'autisme de près ou de loin. Ça fait que j'ai du mal à exprimer mes propres émotions et parfois même à m'y connecter. Donc, il faut que j'apprenne à les ressentir et à les vivre. Mais en plus, je les identifie mal chez les autres. Quand je vois les réactions des autres, j'interprète de travers. Et ben, là, cet homme, en discutant avec ce psychiatre, lui a décrit le cas de son ingénieur avec qui il avait du mal à travailler. Le psychiatre lui a remis une doc sur l'autisme. Alors je ne sais plus si c'était le patron, le chef de service, mais ce supérieur hiérarchique a compris des choses et il a pu dire plus tard au psychiatre, ah mais tout se passe super bien. Par exemple, j'ai appris à lui dire, quand j'ai envie qu'il me dise bonjour, je me plante devant lui, je t'ai dit bonjour, tu me dis bonjour aussi, c'est comme ça que ça marche. Et du coup, son ingénieur lui disait, ah oui, c'est vrai, bonjour. Mais il a appris à utiliser pour le bien de l'entreprise, toutes les compétences extraordinaires de cet homme qui avait un niveau de concentration tout à fait hors du commun et des compétences intellectuelles loin au-dessus de la moyenne, mais il a fallu qu'il apprenne à gérer le relationnel, y compris avec le reste de l'équipe, comment adapter, et que ce soit haut potentiel intellectuel, que ce soit TDAH, que ce soit TSA ou toutes les autres particularités. Il faut, et parfois il faut de l'aide, parfois on n'arrive pas tout seul, mais il faut apprendre à s'intégrer dans un ensemble de relations. Et ça me paraît tout à fait essentiel.
Et du coup, là, ce que tu nous dresses, c'est toute une carte de biodiversité. On la trouve où, ça, cette carte, pour arriver à fonctionner avec les autres et à les comprendre?
C'est pas évident. C'est pas évident, je vois bien dans mon propre cheminement que on tâtonne sur beaucoup de choses. Pour les personnes qui pensent qu'ils sont toujours en train de faire des associations d'idées qui les font se perdre en route, un exemple tout bête, vous êtes parti faire trois achats dans des magasins différents et entre-temps vous avez vu une super voiture qui vous a fait penser à quelque chose et vous êtes parti à réfléchir et vous revenez avec la moitié des choses que vous aviez prévu d'acheter, il est possible que vous ayez un déficit de l'attention. Là, vous pouvez vous renseigner. Il y a une association particulièrement TDAH France. Vous pouvez la trouver sur Internet facilement. TDA, trait d'union H. Pour ceux qui ne savent pas, le trait d'union, c'est le tiret du 6. Et voilà, et point France. Et vous trouverez, cherchez sur Google ou sur un autre moteur. Et avec cette association, vous trouverez des informations pour vous-même. Si vous estimez avoir besoin de faire un diagnostic, vous pourrez trouver des orientations vers des thérapeutes. Mais il n'y aura pas quelque chose d'ensemble. C'est sur un point particulier.
Et
Oui, David.
sur le TDA, on avait déjà fait une émission, pour ceux qui s'en rappellent, avec Nicolas, que vous pouvez aller réécouter ou découvrir si jamais vous voulez en savoir un peu plus sur cette particularité.
Excellent. Sur le TSA, c'est un peu plus problématique pour les HPI. Les enfants avec un niveau intellectuel moyen ou inférieur à la moyenne et qui souffrent d'autisme, on les reconnaît facilement parce qu'ils sont incapables de gérer leurs crises d'angoisse, leurs réactions. Certains ont même du mal à apprendre à parler. Donc, on voit tout de suite le problème et on les accompagne. Pour tous ceux qui compensent, ben je pense encore à ce psychiatre que j'ai évoqué tout à l'heure, qui, face à une dame, lui a dit: Mais madame, moi, je ne peux pas envisager que vous soyez autiste. Vous ne cochez aucune des cases. Non, dans tous les domaines, dans toutes les. Je crois qu'il y a des systèmes qui fonctionnent avec des pointes. Il a dit: Mais dans toutes les crêtes qui concerneraient l'autisme, vous n'y êtes jamais. Et cette dame lui a répondu: Oui, mais par contre, quand je sors d'une séance avec vous, il me faut 4 heures de repos. Tellement elle compensait. Très haut potentiel intellectuel, depuis l'enfance, l'habitude de s'efforcer de paraître normal, mais c'est épuisant. Alors, dans des cas comme ça, il y a des possibilités. Il y a des centres de ressources de l'autisme en différents endroits. Je sais qu'il y en a un à Lyon. Alors, ça fait peur parce que, bien sûr, c'est de l'ordre de la psychiatrie. C'est une des difficultés. On appelle ça trouble du spectre de l'autisme. Et on les accompagne avec des psychiatres, parce que dans certains cas, il y a besoin effectivement de médicaments pour aider, faire de béquilles, ça permet quand même de mieux gérer au niveau relationnel, surtout au début quand on découvre sa différence. Mais c'est un domaine qui est moins clair, et il y a des psychiatres qui ne reconnaissent pas les formes d'autisme sans perte de déficit, sans déficit cognitif. Donc là, et ben c'est un domaine qui est en cours de défrichage et cherchez par vous-même si vous avez des capacités pour compenser des troubles autistiques ou des traits autistiques si ce n'est pas des troubles complets. Mais à ce moment-là, sachez bien que vous avez les capacités de vous renseigner, de comprendre et d'accepter que peut-être vous êtes comme ça, peut-être pas, mais tester, vérifier, regarder dans la vie et surtout interroger les autres. Voyez comment les autres vous voient, vous comprennent. Et puis l'important n'est pas d'avoir une définition précise. On n'est pas là pour entrer dans des cases ou se mettre des étiquettes sur le front ou bien rajouter des pins à la veste, comme tu disais. On est là pour apprendre à se connaître dans les nuances. Voilà comment je suis, voilà comment je fonctionne, et voilà ce qui peut m'aider à mieux fonctionner avec les autres. Encore une fois, tout est là dans les relations à Dieu, aux autres et à moi-même. Je peux apprendre à m'écouter, je peux apprendre à écouter la voix du Seigneur dans les moments de méditation, de prière, d'écoute des Écritures, et je peux écouter ce que me disent ceux qui m'entourent. Ils n'ont pas nécessairement raison sur tout. Je comprends pas toujours ce que je pense recevoir de Dieu. Là aussi, il faut prendre le temps, il faut avancer petit à petit, réfléchir encore. Mais apprendre à se connaître, devenir son propre ami plutôt que son propre ennemi, et essayer de réunir toutes les parties de soi-même pour pouvoir avancer le plus paisiblement possible et dans les meilleures relations possibles. C'est le cœur de l'évangile pour moi aussi. C'est la partie du salut qu'on peut mettre en œuvre ici et maintenant. C'est la part de vie éternelle à vivre au quotidien, aller toujours mieux dans la connaissance de soi et dans les relations aux autres.
Merci beaucoup Régis. Moi, quand on me parle de biodiversité comme ça, j'ai juste envie de dire comme J'allais dire cher ami, alors que je ne le connais pas, mais j'entends parler, quand j'entends biodiversité, j'entends parler Hervé Covès. Je ne sais pas si tu le connais, je ne sais pas si vous le connaissez, ça n'a aucun rapport avec notre sujet. Mais si jamais vous avez envie d'écouter un poète franciscain qui vous parle de la beauté de la création et du créateur, cherchez sur votre moteur de recherche préféré Hervé Covès. Cherchez par exemple le vieil arbre ou la gestion holistique des limaces. Vous allez découvrir la beauté de la création et ça va vous donner envie de connaître encore plus le créateur. Alors, oui, les neuroatypiques, c'est une belle biodiversité. La biodiversité est belle, la vie est belle. Merci Régis, et je pense qu'on
Merci
commence
David.
une nouvelle saison sur de bons rails.
Superbe.
À bientôt les amis.
À bientôt tout le monde.